8h44 à Paris, dans un instant le Sénégal, le nouveau drame de l'émigration à Mbourg, à la une de la revue de la presse de Frédéric Couteau, la Libye, les zones d'ombre de la reconstruction de Derna, un an après les inondations meurtrières, on en parlera avec l'invité de Christophe Boisbouvier. Et puis avant 9h, bien sûr, le sourire de Maman. Mais d'abord l'essentiel de l'actualité de ce 11 septembre.
Nathalie Hamar.
Avec à la une ce premier débat de la campagne présidentielle aux États-Unis, ce ne sera peut-être pas le seul d'ailleurs, puisque les équipes de Kamala Harris déjà en proposent un autre. La candidate démocrate est apparue offensive pendant 7h45 de débat pied à pied avec l'ex-chef de la Maison-Blanche. Elle accuse Donald Trump d'avoir propagé un tissu de mensonges sur l'avortement, d'insulter les Américaines. En retour, l'ex-président a taxé sa rivale de marxiste, l'a accusé d'avoir copié le programme de Joe Biden et de détruire le tissu social du pays. Ce débat, on y revient plus longuement dans le journal de 9h. Ce sera avec Guillaume Nodin en ligne de Washington. Le Proche-Orient également à la une. Ce matin, le Croissant Rouge palestinien fait état de frappes israéliennes en Cisjordanie occupée. Des frappes qui, selon le bilan du Croissant Rouge, auraient fait 5 morts. Au Mexique, le Sénat adopte, c'était il y a quelques minutes tout juste, la réforme du pouvoir judiciaire voulu par le président sortant, le président de gauche, Andrés Manuel López Obrador. Une réforme contre laquelle des centaines de manifestants s'étaient soulevés quelques heures plus tôt, envahissant le siège du Sénat et obligeant son président à ajourner la session. Enfin, aux États-Unis, la tempête Francine, des armes classées comme un ouragan de catégorie 1 avec des vents à 120 km/h. Elle se dirige vers la Louisiane où elle pourrait provoquer dès cet après-midi des inondations. La revue de la presse africaine, avec vous Frédéric Couteau, bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Et à la une, ce matin, le drame de Mbourg au Sénégal, un scénario qui se répète encore et encore.
Oui, c'est malheureusement souvent la même histoire, des dizaines de jeunes gens qui s'entassent sur une pirogue, pensant trouver une vie meilleure en Europe, en passant par les Canaries, et puis à l'arrivée, bien souvent, c'est la mort par noyade qui les attend. Le décompte macabre se poursuit toujours après le drame maritime de dimanche dernier, lié à l'émigration irrégulière, soupire le site d'information Dakar Actu. Selon des informations confirmées par les unités des sapeurs-pompiers de Mbourg, 36 corps sans vie sont pour l'instant enregistrés officiellement. Les recherches sont à cette heure suspendues, elles reprendront ce mercredi.
La majorité des migrants retrouvés morts sont originaires de cette ville de Mbourg, précise le site Sénégo.
Oui, les dépouilles sont exposées au niveau de la plage et à la morgue afin de permettre leur identification par leur famille. L'organisateur du voyage, le capitaine du navire, a été arrêté lundi aux environs de 17h chez son charlatan où il se rendait pour se munir de protections mystiques afin d'échapper à une arrestation. Pour le coup, c'est raté. 36 morts pour l'instant, donc le bilan du naufrage pourrait encore s'alourdir, relève Wolf Quotidien. Citant Babacar Senghor, président du conseil local de la pêche artisanale à Mbourg, des personnes ont affirmé que 80 corps avaient été repêchés. Pour l'heure, on ne sait pas avec certitude combien de personnes avaient pris place dans cette pirogue, mais on estime qu'elles étaient une centaine.
Le site Dakar Matin laisse éclater sa colère.
Qui pour leur dire que la vie s'est ici, dans ce pays et maintenant, qui pour leur faire comprendre que la réussite est à portée de main et que l'espoir est de retour dans leur propre pays où tout est à reconstruire et qu'il suffit d'y croire pour exister. Tous ces jeunes qui meurent bêtement au fond de l'océan, éblouis par les mirages d'une Europe en crise et qui rêvent d'Eldorado, se trompent dans leur entreprise périlleuse, s'exclame Dakar Matin. L'arrivée d'un nouveau régime n'a pas arrêté la traversée macabre, pointe encore le site sénégalais. Elle se poursuit et s'intensifie sans répit avec la présence de desperados d'autres nationalités qui font de ce Sénégal côtier un pays de transit, un exode qui à lui seul résume l'échec d'un pouvoir qui nous promettait une hypothétique émergence et qui nous a laissé un pays en lambeaux.
Et rien n'y fait, c'est ce que constate l'observateur Palga au Burkina Faso.
On a beau tout essayer avec l'opération Frontex, avec la politique de fixation des jeunes dans leur terroir, avec l'aide au développement. Non, ils sont encore des milliers et des milliers à prendre le désert ou la mer à la recherche d'un hypothétique Eldorado, quitte à y rester en cours de route. Depuis le début de l'année, ils sont quelque 5000 à s'être noyés en voulant traverser l'Atlantique. Entre janvier et mars, un peu plus de 13 000 migrants ont atteint les îles Canaries de manière irrégulière après avoir traversé en bateau depuis les côtes de l'Afrique de l'Ouest, soit une augmentation de 502% par rapport à 2023.
Et malheureusement, relève pour sa part Wakat Serra, ce phénomène de l'immigration clandestine n'est pas l'apanage du Sénégal.
Les Mbours ne sont pas qu'au Sénégal, qui constituent avec la Gambie et la Mauritanie en Afrique de l'Ouest les passages les plus usités pour atteindre l'Europe. Les Mbours sont dans le désert algérien. Les Mbours sont à la porte du Maroc, qui s'ouvre sur l'enclave de Melilla. Les Mbours sont dans le No Man's Land libyen, où les migrants sont tués, ou mieux, vendus comme esclaves. Et tous ces Mbours, s'agace le site burkinabé, ne se construisent pas en dehors des dérives de ceux qui nous gouvernent, qui transforment, grâce à la malgouvernance, la corruption et la soif inextinguible d'un pouvoir de fer, leur population en bêtes de somme, juste bonnes pour servir de bétail électoral. Quand la confiscation des libertés se conjugue avec ces pratiques égoïstes, sport national de nombre de dirigeants africains, le départ vers des horizons meilleurs devient la seule issue possible. Alors, soupire encore Wakat Serra, alors les Mbours ouvriront toujours les bras aux désespérés de la vie dans les goulags que sont la plupart des républiques très très démocratiques du Gondwana, où le leader bien-aimé ne règne que pour lui-même et pour sa famille.
Frédéric Couteau avec cette référence à Maman que l'on retrouve dans quelques minutes dans RFI Matin. Quant à vous, vous revenez à 9h15 pour la revue de la presse internationale. C'était il y a un an, presque heure pour heure, au petit matin du 11 septembre. Des milliers d'habitants de Derna, dans le nord-est de la Libye, mouraient ensevelis ou noyés à la suite d'une tempête et de la rupture de deux barrages en amont de la ville. Officiellement, il y a eu 4000 morts, mais les experts estiment que le vrai bilan dépasse les 14 000 victimes. En juillet, 12 personnes ont été condamnées à de lourdes peines de prison. Aujourd'hui, la ville se reconstruit, mais dans la plus grande opacité financière. Virginie Colombier est docteure en sciences politiques, professeure à l'université Louis à Rome, en Italie. Elle est ce matin l'invitée de Christophe Beaubouvier.
Virginie Colombier, bonjour.
Bonjour.
À la suite de cette catastrophe, le Parlement de Tobrouk, présidé par Aguila Saleh, a débloqué quelques 2 milliards de dollars pour la reconstruction de la ville. Et aujourd'hui, les autorités libyennes disent qu'on est à 70% du taux d'achèvement de tous les travaux. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle ?
Bon, alors, les gens qui sont sur le terrain reconnaissent qu'il y a un vrai effort qui a été entrepris en termes de reconstruction, de logements, de ponts, de routes. Donc, c'est une bonne nouvelle. En revanche, on a une opacité, une absence totale de transparence sur l'origine des fonds qui servent à cette reconstruction. Il ne faut pas oublier que le Parlement de l'Est, donc dirigé par Aguila Saleh, qui a décidé de l'octroi de ces 2 milliards de dollars, n'a pas accès aux fonds de la Banque centrale. Et deuxième point, il y a aussi très peu de transparence et des critiques très très fortes sur les critères qui ont été utilisés pour les indemnisations. Il semblerait qu'il y ait des gagnants et des perdants en fait de cette reconstruction.
À la tête du fonds pour la reconstruction de Derna et des villes alentours, il y a Belgacem Haftar, l'un des trois fils du maréchal Haftar. Alors on connaissait ses deux frères, Saddam et Khaled, mais pas lui. Pourquoi le maréchal l'a-t-il placé à la tête de toute cette opération ?
Alors en fait, Khalifa Haftar a six fils, trois qui ont acquis une visibilité beaucoup plus importante au cours des dernières années. Jusqu'à présent, Belgacem n'était pas le plus visible. Le plus visible, c'est Saddam Haftar, le bien nommé, qui a graduellement gravi les échelons en fait, de l'appareil sécuritaire qui contrôle l'Est et une partie du Sud de la Libye. Ce qu'on observe, en fait, c'est que depuis un an et demi, il y a une véritable opération de noyautage et de placement de différents personnages centraux du clan Haftar, en particulier les fils, à différentes positions stratégiques dans la perspective de la succession de Haftar.
Qui a plus de 80 ans. Hein.
Oui, qui a plus de 80 ans, qui a eu à plusieurs reprises des problèmes de santé, mais qui tient bon. Et ce qui est opéré, c'est une opération un peu de placement des proches du maréchal à des fonctions qui touchent à la sécurité, mais également à l'économie, parce que, un peu comme sur le modèle égyptien, les forces armées dirigées par Haftar ont un rôle maintenant absolument central dans l'économie. Et Belgacem, qui joue un rôle central dans la reconstruction non seulement de Derna, mais aussi d'un certain nombre de villes qui ont été sinistrées par le conflit au cours de la dernière décennie. Et donc, Sirte, Morzouk dans le sud. Et par la reconstruction, Haftar et son entourage démontre aussi qu'ils ont besoin de se construire une certaine légitimité, une sorte de base populaire.
Alors vous dites que la Banque centrale libyenne n'a pas participé au financement du fonds pour la reconstruction de Derna. Est-ce à dire que cette Banque centrale est passée sous le contrôle exclusif de Tripoli au détriment de l'Est ?
Non, alors officiellement, dans la situation de division institutionnelle qui caractérise la Libye, le gouvernement de Tripoli, légitime internationalement, était celui qui avait le contrôle sur la Banque centrale. Depuis quelques mois, on se rend compte que le gouverneur de la Banque centrale, qui jusqu'à présent avait tenté de préserver la neutralité de l'institution, a commencé petit à petit à se rapprocher des autorités de l'Est. Et ce changement de position du gouverneur de la Banque centrale a provoqué un conflit majeur avec le gouvernement de Tripoli, qui essaye depuis quelques semaines de se débarrasser de lui et de nommer un nouveau gouverneur et un nouveau conseil d'administration.
Mais ce gouverneur de la Banque centrale, il est physiquement avec sa famille à Tripoli, donc si...
Non, il est parti depuis deux semaines.
Ah,
il est
d'accord.
Hors de Libye. Il est parti en verrouillant tout le système de la Banque centrale. Et aujourd'hui, il y a une médiation en cours par les Nations Unies pour essayer de trouver un compromis parce que tic-tac, le temps passe et l'impact sur l'économie libyenne est particulièrement important. Par exemple, si on ne peut pas vendre le pétrole et avoir sur les comptes de la Compagnie nationale du pétrole une arrivée des fonds liés à cette vente, ce qui est le cas aujourd'hui, évidemment, ça bloque tout le système libyen qui dépend à 98% du pétrole.
Et ce gouverneur, on sait où il est ?
A priori, à Istanbul. Donc, c'est une situation un peu ubuesque.
Avec la Turquie dans le rôle d'arbitre ?
Je ne suis pas convaincu que ce soit la Turquie qui ait un rôle central. Les Américains ont toujours été très attentifs pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption des opérations de vente, d'exportation du pétrole, pas de perturbation sur les marchés en fait. Donc, ils ont a priori un intérêt à intervenir pour faciliter un compromis.
Virginie Colombier, merci.
Virginie Colombier, invitée de Christophe Boisbouvier. Vous retrouvez cet entretien sur RFI.fr. Et un an après Derna, c'est au Nigeria, aujourd'hui à Maïdougouri, dans le nord, qui est submergé par les eaux. On y reviendra à 9h, les précisions de Frédéric Guéra. 8h55 à Paris, RFI Matin, voici le sourire de Maman. Et en matière d'argent, Maman, il y a une lettre de l'alphabet qu'il faut fuir comme la peste.
Oui, le nerf de la guerre, l'argent a des milliers de noms. La thune, les ronds, le fric, le pèse, la moula, le flouze, koutni, les dos, wari, les briques, les radis, l'oseille, le blé, les patates, le bif, le cash et j'en passe. Et des mots et expressions sonnants et trébuchants qui pourraient remplir tout un dictionnaire. Ah, mais quand tu t'assois pour éplucher ton relevé bancaire, mon ami, ou faire l'inventaire des pièces de monnaie qui se battent en duel dans tes poches, tu te rends compte que quand il s'agit de ta situation financière, il y a des mots qui ne sont vraiment pas tes amis, des mots avec lesquels tu pratiques la distanciation sociale, tous ces mots qui commencent par la lettre D, D comme dette, découvert, débiteur, dèche, déconfiture, déficit, etc. Quand ces mots débarquent dans ta vie, mon ami, c'est la déprime, la dépression avant la débandade. Le découvert sur ton compte bancaire dès le 5 du mois, ben ce n'est pas bon. Hein. Y a que toi qui sais que ton compte est à découvert. Mais tu rases les murs pour ne pas rencontrer quelqu'un à qui tu doit, comme on dit au Gondwana. Et que ce quelqu'un qui t'attend, bah oui, il attend que tu rembourses ta dette. Ah, c'est dur, hein, tous ces mots commençant par D. D comme DAB, distributeur automatique de billets. Oh là là, lui, quand ton compte est à découvert, hein, le distributeur, là, tu lui tournes autour. Mais tu finis quand même par te présenter devant lui parce qu'il ne parle pas, le distributeur automatique. Contrairement au guichetier de la banque qui te dit « mon ami, tu sais qu'il n'y a pas d'argent dans ton compte là. Pourquoi tu me perds le temps comme ça ?» Suivant. Avec le distributeur automatique, même si tu sais que tu n'as pas d'argent, mais tu glisses quand même ta carte parce que tu espères toujours que la banque peut faire une erreur en ta faveur. Tu attends qu'il n'y ait personne au distributeur. Oui, parce que tu ne veux pas te taper la honte quand il va recracher ta carte sans te donner de l'argent. Tu t'approches doucement alors, tu fais tes prières, tu mets ta carte et tu demandes une toute petite somme, comme si tu faisais la manche avec ton argent. Le distributeur te chip et il rejette ta carte aussitôt. Mais derrière toi, il y a déjà la queue. Alors, digne comme un billet froissé, tu t'en vas en leur disant « il est en panne, hein ?» Eh oui, t'es à découvert, ton compte est débiteur, mon ami. Toujours cette satanée lettre D. Mais y en a à qui ça fait pas peur. Hein. Ils sont à découvert, comme toi, mais un découvert énorme, mouse costaud. Un découvert à milliards d'euros. À tel point qu'on l'appelle pas découvert. Découvert, c'est pour les petits comme toi. Non, on l'appelle déficit. Mais ils ne tremblent pas comme toi pour ton petit découvert. Parce que le déficit à milliards d'euros, là, c'est pas leur argent. C'est les comptes publics, les comptes de l'État, quoi. Leur déficit, c'est nous tous qui allons le payer. Et c'est eux qu'on applaudira, ces fameux ministres des déficits. Alors je te dis D comme À demain.
À demain, maman. Bonne journée à vous. À suivre, à 9h, le journal de Clotilde Dumay. Et puis, on ira en Ukraine avec ces quelques dizaines de soldats du bataillon sibérien des Russes qui ont choisi de se ranger du côté de Kiev. C'est un reportage que nous proposera Emmanuel Chaz. À tout de suite, RFI Matin. On est ensemble jusqu'à 10h.
Tout à l'heure sur RFI, vous m'en direz des nouvelles avec Jean-François Cadet.
Ce 11 septembre, Pierre de Ronsard aurait eu 500 ans. L'écrivain Franck Maubert nous fait cheminer dans les paysages qui peuplent les textes du prince des poètes. Quant à Vincent Guidot, il dirige sa demeure, le prieuré Saint-Côme, et il expose 500 ans de création autour de son œuvre.
Vous m'en direz des nouvelles ? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI.
Ce mercredi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Reportage au cœur du bataillon de Sibérie en Ukraine. Une unité composée de citoyens russes qui combattent auprès des Ukrainiens. Certains sont aussi issus de minorités tatars ou bouriates qui ont en tête l'indépendance vis-à-vis de Moscou.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI.